RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Radio Télé avec les GG, vous prenez la parole. On vous attend bien évidemment au 32-16, c'est la deuxième heure des grandes gueules. On va évoquer le maire de Cannes, David Lisnard, qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Il quitte les Républicains. Donc est-ce qu'il peut causer la surprise dans la campagne, David Lisnard, qui se présente comme le libéral, est-ce qu'il peut causer la surprise de la campagne 2027? Vous venez en discuter avec nous là d'ici un quart d'heure. D'abord, on va s'intéresser aux arrêts maladie.
Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade.
Ouais, mais alors là, quel type de maladie là? J'aimerais bien que les peut-être des jeunes ou des cadres qui ont un peu tendance à abuser de l'arrêt maladie témoignent en toute franchise au 32-16. Ce sont des chiffres officiels, ce sont bel et bien ces deux catégories socio-professionnelles qui font monter aujourd'hui les arrêts maladie.
Cette étude menée par l'assureur est dingue, 50% d'arrêts maladie supplémentaires depuis 2019. Aujourd'hui, on passe quasiment un jour travaillé sur 20 en arrêt maladie. Vous imaginez? C'est énorme. Et alors effectivement, ce qui est encore plus énorme, c'est quand on regarde dans le détail qui est en arrêt maladie, ce sont les jeunes. Ah, c'est contre-intuitif. On pourrait penser que c'est les plus âgés, fatigués, etc. Après des années de labeur. Non, ce sont les jeunes qui viennent tout juste de commencer à travailler. Et les cadres, qui a priori ont quand même les fonctions les moins pénibles, en tout cas physiquement. Alors on nous explique que oui, mais il y a une dégradation de la santé mentale au travail. Bah tiens, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, pour régler un conflit avec ton employeur, tu te mets en arrêt maladie. C'est devenu la norme.
Une remarque. Et donc,
le médecin généraliste, tu vas le voir, tu dis ça va pas du tout, j'en peux plus, j'ai peur d'aller au travail, etc. Bon, le médecin, il coche la case santé mentale, problème de burn-out, de dépression, etc. Et hop, arrêt maladie, ça coûte une blinde, bien sûr, à la sécu. Nous payons tous cela. Ça rend fou ceux qui travaillent vraiment, comme Didier Giraud.
Ah ouais, mais ça me rend fou. Cette génération qu'on appelle X, mais que moi j'appellerais QQ, parce que c'est deux Q, quoi, QQ, qui, parce que le matin se dit, je veux pas y aller, crac, hop, arrêt maladie. J'écoutais un témoignage ce matin, j'étais dans ma stabulation à 4h du matin, en train de m'occuper de mes vaches, et j'écoutais le témoignage d'une jeune de 24 ans qui t'expliquait tranquillement, que le jour où elle se sentait pas bien dans sa tête, elle se faisait arrêter, quoi. Voilà, une jeune de 24 ans qui se faisait arrêter régulièrement, et le chiffre de 1 pour 20, mais moi je me suis demandé ce que je foutais à 4h du matin au travail, quoi, pour aller payer des cotisations pour que ces gens-là continuent d'alimenter un espèce de mammouth français qui s'appelle notre couverture sociale, tout ce que les gens glorifient, mais qui va nous faire crever. Ça va nous faire crever. Si aujourd'hui il y a plus personne qui veut bosser, c'est parce que celui qui bosse, il paye pour celui qui veut pas bosser, quoi.
Parce qu'on le permet, ça. Parce qu'il y a un médecin qui le permet.
À un moment donné, il faut qu'on
s'y rembourse.
Mais à un moment donné, moi, je vais rejoindre le camp de Barbara. Il faut un Milley qui aille sanctionner les médecins qui font ce genre de d'arrêt abusif. Parce que moi, qu'on m'explique que les gens sont en situation de suicide quand ils agissent ainsi, taratata. Dans les témoignages ce matin, j'écoutais aussi une jeune qui disait, ouais, mais moi, s'il fait une réflexion, crac, deux jours en arrêt maladie, quoi. Et puis qu'on arrête de payer les arrêts maladie avant 30 jours, quoi. Moi, dans mon système social agricole, j'ai 28 jours de carence. Voilà. J'ai 28 jours de carence. Donc, à un moment donné, quand j'ai un rhume, je vais au boulot, quoi.
Oui, mais quand on joue sur les jours de carence, c'est tout de suite levée de bouclier en disant on pousse les gens à aller travailler malade. Ce n'est pas possible. C'est un sujet tabou.
Parce que il y a à la fois ce que tu payes dans tes impôts qui alimente le système, mais il y a à la fois les mutuelles, quoi.
Hein. Du monde du travail.
Non, mais t'as aussi les mutuelles. Mais... t'as les mutuelles qui sont en train d'exploser depuis 2019 parce qu'il y a ce genre de comportement qui est complètement impuni, quoi. Non, franchement, on se fout de la gueule des gens qui bossent, quoi.
Non, mais c'est un vieux sujet. Effectivement, les chiffres sont intéressants sur les jeunes. Moi, je suis pas tout à fait surpris. Je sais qu'on a un problème avec une nouvelle génération qui a une espèce de rapport au travail très très étrange et qui veut absolument prioriser son bien-être, ses petits week-ends, sa petite vie, nani nana. Bon, c'est très bien, mais faudra pas se plaindre après quelqu'un qui fonctionne comme ça, s'il fait pas une carrière de dingue, il faudra pas invoquer les discriminations.
Oui, mais parce que c'est même plus leur objectif
du patron.
Oui, mais c'est plus leur objectif.
C'est plus leur objectif.
Cette nouvelle génération, elle a pas pour objectif de gagner beaucoup d'argent, faire carrière.
Mais pourquoi? Parce qu'elle
veut rien foutre.
Mais parce qu'en France, il n'y a plus besoin de gagner beaucoup d'argent. Le socialisme a gagné. Ouais. C'est ça la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis désolé, quand tu payes pas ta santé, pas l'école de tes enfants, pas la cantine de tes enfants. Quand tu as des aides pour ton logement, pour ton chauffage, pour tes fournitures scolaires, etc., etc. Il n'y a plus un vrai besoin de travailler, il n'y a plus à se fatiguer. D'autant que si
pas trop, tu ne mets pas d'impôts.
Exactement. Si tu te fatigues, là, de toute façon, l'État vient corriger la chose pour que surtout tout le monde soit à égalité. Donc, il n'y a plus de raison en France de se décarcasser. Et c'est pour ça que cette nouvelle génération se décarcasse pas. Mais la complaisance sur les arrêts maladie, on la connaît. Elle est largement connue, documentée. Chacun la connaît même de manière empirique. On voit bien quelqu'un qui n'obtient pas son jour de congé pour faire un pont au mois de mai, il claque un arrêt maladie sur le jour qui l'arrangeait. On le sait. De même, quelqu'un qui est en conflit avec son employeur, il se met en arrêt maladie.
Et après, il demande une...
Oui, mais on va t'expliquer que cette jeunesse qui a vécu le Covid a un problème de santé mentale qui n'est pas réglé. Non, mais... on l'a maltraité.
Oui, mais c'est pas en n'allant pas bosser qu'on règle.
C'est les ouin-ouin qui disent ça.
C'est pas en allant pas bosser.
C'est les ouin-ouin qui disent ça. Écoute, moi j'ai un fils de 22 ans, il travaille 7 jours sur 7. Voilà.
Oui, non, mais c'est pas que toutes les générations, c'est pas tous les jeunes.
Il est peut-être atypique dans sa génération, mais.
Mais là où
il faut le mettre sous cloche.
C'est dans la chaîne de ces arrêts de maladie et dans la chaîne du travail, il y a trois choses. Il y a le salarié, il y a l'employeur et il y a le système. D'abord, effectivement, le rapport au travail des jeunes, il est plus le même que le nôtre.
Le rapport à l'autorité aussi.
Alors, on commence par le travail. Déjà, le rapport au travail, c'est-à-dire que aujourd'hui, le rapport au travail, il est différent. Et en plus, les jeunes n'ont pas les mêmes perspectives que les anciens. Avant, on rentrait dans une usine, chez un employeur, on y restait 40 ans. Aujourd'hui, ça se met en auto-entrepreneur 6 mois, ça repart bosser, ça revient, ça veut plus de CDI, ils vivent comme ça.
Et
très
le
bien.
Système les aide à faire ça.
Ça, c'est le système. Le rapport au travail. Ensuite, le rapport de l'employeur dans le travail. On est encore, nous, archaïques. On travaille pas par projet. On manage dans des conditions anciennes. Il y a tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de responsabilité. Les gens ne font que ce que tu les autorises à te faire. Si un système autorise à ce que quelqu'un, comme dit Charles, il y a le pont, il veut pas me le donner, je le prends, le système l'autorise. Pourquoi il s'en passerait? Donc en fait, là encore, une fois de plus, comme tu ne prends pas la chaîne en entier pour travailler dessus et essayer de comprendre et trouver des solutions, quelqu'un qui est harcelé au travail et qu'est-ce qu'il
et
fait?
Ça existe.
Oui, et il doit subir tous les jours parce qu'il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de sas, il n'y a pas quelque chose qui lui permet de décompresser ou d'avoir un soutien rapidement. Non. Tu dois subir et tu dois rester et tu es dans la nasse et tu dois subir ton employeur. Après, la relation à cette espèce de dilettante des jeunes, c'est encore un autre sujet. Et donc, on dit qu'il y a beaucoup d'arrêts. Le beaucoup d'arrêts, il est lié au fait que le système permet ce beaucoup d'arrêts. Donc, commences à mettre fin à ce système, tu commences à réguler ce système. Et puis après, tu regardes pourquoi les gens...
T'enlèves
le système social
Zora, quand une société entière est à un jour sur 20
tu te poses des questions.
D'arrêt maladie, c'est pas que des vrais gens harcelés. Hein.
Vous prenez un truc, vous le prenez, la globalité, j'ai dit que Zora,
sincèrement, on est passé...
C'est impossible de parler avec eux, ils prennent un truc, ils rebondissent dessus et ils en font...
C'est une discussion, donc...
Non, tu prends pas qu'un seul seul de mes arguments, tu prends tout.
Non, mais je te prends cet argument-là.
Voilà. Bah, on est passé effectivement. Il me définit pas.
Il y avait cette société des petits chefs, mais on est passé.
Mais qui existe encore.
C'est-à-dire aujourd'hui être chef, c'est très compliqué.
C'est savoir qu'il y a. C'est savoir qu'il y a le matin pour bosser. En fait,
tu marches avec les managers. C'est très compliqué de donner un ordre parce que c'est vu comme du harcèlement. C'est très compliqué d'être un peu exigeant parce que c'est vu comme étant une pression insupportable. Vraiment, hein, on est passé.
J'ai dit que c'est
aujourd'hui tout doit être horizontal. Donc
j'ai dit que cette raison des arrêts est multifactorielle. Oui. Il y a le feignant qui veut pas bosser. Il y a le système qui le permet d'être feignant. Il y a l'employeur qui harcèle et que l'employé n'a pas de marge de manœuvre, etc., etc. C'est tout.
Et il y a cet argument-là qui est pris tout le temps.
C'est notre rapport au travail.
De gens qui sont en burn-out parce qu'ils sont harcelés.
Frédéric va en discuter avec nous au 32-16. Bonjour Frédéric.
Bonjour les GG.
Responsable d'exploitation, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous le constatez vous-même justement, cette augmentation des arrêts maladie chez les jeunes et chez les cadres? Dites-moi.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai envoyé un message. Parce que du coup, c'est vrai que chez les jeunes, un peu un pourcentage, pas la globalité des jeunes.
Voilà.
Mais qu'aujourd'hui, ont la facilité de se mettre en arrêt. Et comme j'ai dit dans mon message, le dernier en date, il y a une de mes collaborateurs qui m'a demandé une demande de congé que je n'ai pas pu accepter par rapport au planning. C'était impossible. Et la personne s'est mise en arrêt de travail.
Ben voilà, puisque le système lui permet.
L'arrêt, ça permet de régler un conflit avec son employeur. On se met en arrêt pour faire pression.
Mais c'est que ça. C'est aujourd'hui, c'est demande de congé. Dans demande de congé, il y a demande. Et aujourd'hui, c'est que des trucs comme ça. Des fois, on me dit, je serai pas là. J'ai réservé un hôtel, quelque chose. Du coup, je serai pas là.
Oui, mais Frédéric, ce que vous décrivez est une réalité que beaucoup d'employeurs vivent. Mais regardez, vous n'avez rien pu faire. Elle l'a fait. Elle l'a fait parce que
le système rien passé pour
lui permet de le faire. Donc,
si tu mets la consultation,
mets la consultation à 150 balles et tu vas voir.
Mettons la consultation à 80 euros.
Frédéric,
je voudrais à 50, vous verrez, il y aura beaucoup moins d'arrêts.
Frédéric, j'ai une question à vous poser justement. Comment vous avez continué de discuter avec votre salarié en disant mais non, ça se fait pas.
C'est quoi la suite?
Qu'est-ce que vous avez fait, Frédéric?
Mais le dialogue, il est rompu. On peut rien faire dans ces cas-là. J'aimerais être une petite souris quand ils vont chez le médecin. Et qu'est-ce qu'ils disent au médecin?
Voilà.
Ils disent, j'imagine que votre employé a dit, mon responsable d'exploitation,
il me fait chier.
Il me pousse au burn-out, il ne veut pas que je parte en vacances, je n'en peux plus. Et le médecin signe un arrêt maladie.
Aujourd'hui, c'est ça, c'est la santé mentale, c'est dès que les plannings ne conviennent pas.
La santé mentale, c'est pratique ce terme.
C'est un peu le fourre-tout. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient compliqué de travailler et c'est les mêmes à la fin du mois qui se plaignent de leur salaire.
Et comment vous faites maintenant avec cet employé?
J'ai pas le choix. D'abord, je peux rien faire. Elle est en arrêt de travail, donc elle est protégée.
Mais elle est en arrêt jusqu'à quand?
C'est arrêté juste la semaine où qu'elle avait besoin.
Oui, mais maintenant qu'elle est revenue au travail,
le dialogue, il est pareil. D'abord, je peux rien faire. Moi, elle a eu sa semaine qu'elle voulait. Ça ne change rien quand
une semaine. Et qu'est-ce qu'elle a fait alors durant cette semaine? Elle était où? Elle a fait quoi?
Nous, elle nous avait juste demandé une demande de congé. Est-ce qu'après elle est partie qu'elle se baladait en France? J'en sais rien. Je veux même pas le savoir.
Mais c'est une bonne employée ou pas?
Oui, elle fait son boulot. Mais je trouve ça dommage, c'est qu'aujourd'hui, je suis désolé, moi j'ai 42 ans. J'ai toujours appris, mes parents m'ont éduqué. Je demande des congés, j'attends qu'ils soient acceptés et je réserve. C'est un peu de ce que tout le monde fait. C'est pas je réserve des vacances et je claque des doigts en espérant que...
Non, mais personne ne...
Vous le constatez aujourd'hui, je sais pas, dans votre travail, autour de vous, avec des collègues, ça devient une espèce d'habitude.
Mes agents, ils en parlent. Quand j'ai des agents qui se mettent en arrêt parce que leur planning leur convient pas, mais c'est qu'en plus, le pire, c'est qu'ils s'en vantent aux collègues. Et comme les collègues doivent les remplacer et leurs plannings sont modifiés, donc automatiquement, ça me revient aux oreilles.
Oui, mais Frédéric, regardez, juridiquement, vous ne pouvez rien faire. Elle a fait un arrêt en bonne et due forme. Donc la vraie refonte, la vraie réflexion, c'est la cause. C'est-à-dire ce qui permet justement de faire ce genre de manipulation.
Il y a une défaillance dans le système.
Mais oui, et à côté de ça, quand il y a des gens qui sont réellement malades, qui ont besoin d'une prise en charge, et qu'on dérembourse un certain nombre de médicaments,
ouais,
y compris les les médicaments de confort à qui on dit le kiné à la sortie d'un d'un cancer, et ben c'est une option confort, etc., etc. pour payer ces gens-là. Ça veut dire que le gouvernement, une fois de plus, celui-là et celui d'avant et celui d'avant, n'ont encore pas réfléchi à la façon dont on peut faire en sorte que les gens n'aient pas accès à cette tirette facile.
C'est la vie qui est comme ça. C'est 90%.
C'est pas la vie, c'est des choix politiques. C'est pas la vie.
C'est ce que je dis, c'est qu'il y a 90% des gens qui vont être punis pour 10% des personnes qui grugent le système.
Mais c'est encore le manque de courage.
Frédéric, on va continuer la discussion et je vous remercie. Je vous remercie de cet exemple que vous avez donné.
Souvenez-vous que les médecins étaient vent debout.
Mais oui.
Quand on a décidé, parce que les arrêts longue maladie qui coûtent une blinde.
Mais oui.
En disant, mais c'est peut-être quand on donne un arrêt de 3 mois, c'est peut-être bien qu'au bout d'un mois et demi, on vérifie si la personne est malade. Les médecins étaient vent debout en disant oui, on est fliqués, etc. Le problème, c'est qu'on a un système. Tout le monde profite.
Mais oui.
Profite du système. On se paye sur la bête et personne n'ose le bouger. Si vous dites jour de carence, oh là là, c'est terrible. Vous dites la consultation, on la rembourse pas intégralement. Bah non, on peut pas. Vous comprenez, des gens n'iront plus se faire soigner. C'est pire. Et si vous dites, bah écoutez, on peut quand même aller bosser un peu malade. Oh là là, c'est pas possible.
Non mais quand tu
dans le système,
pour moi,
alors attendez,
dans le
système, moi, ce que j'aimerais, c'est continuer.
Si les employeurs puissent déconger des contrôles, quoi.
On va continuer d'en parler.
Oui, mais parce que c'est les contrôles, tu préviens la personne que tu as contrôlé.
On a mis en place les téléconsultations, tu sais, ça facilite aussi les téléconsultations. Oui. Maintenant, c'est un confort, c'est pratique.
Ah, c'est encore
même s'ils ont un peu réduit.
Mais souviens-toi, oui, ils ont réduit, mais souviens-toi ce que nous disait Jérôme Marty, la téléconsultation. Oui. Quand t'as un type en face, tu vois, qui dit j'ai pas dormi depuis 3 jours, t'es en téléconsultation. C'est pas ton patient, t'es là, t'hésites. Tu dis bah, non, je vous arrête pas, et si je l'arrête
pas,
qu'il commet l'irréparable. Bref. Les hausses des arrêts maladie.
C'est le principe de la téléconsultation.
Chez les jeunes, chez les cadres. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui cloche? Je vous le demande en toute franchise. Si justement vous êtes devenu un spécialiste de l'arrêt maladie, c'est au 32-16 que vous pouvez en parler.
De manière anonyme,
appelez-nous,
vous pouvez même changer
votre prénom, on va s'arranger. Il est 10h20, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, 10h25, on continue de vous donner la parole, bien évidemment, au 32-16 pour discuter, pour débattre, pour témoigner de ce qui est un mal français aujourd'hui, c'est-à-dire les arrêts maladie chez les jeunes, chez les cadres. Alors, les arrêts maladie qui sont en fait en augmentation continue depuis quelques années. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui l'arrêt maladie un motif de rapport de force avec son employeur? C'est la question que l'on se pose. Est-ce qu'on est face à une génération beaucoup plus fragile, mais pour de vrai?
Ça va augmenter avec le carburant, là.
Psychologiquement, on en discute. Carburant. On a Valérie qui veut réagir, qui nous appelle de Lyon, je crois. Bonjour Valérie.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Valérie.
Qu'est-ce que vous en dites, Valérie, de cette augmentation des arrêts maladie, alors?
Alors, moi, je peux vous dire une chose, c'est que la sécurité sociale, c'est faux, ils ne font pas de contrôle.
Ben oui.
Moi, je suis dans le service du nettoyage, et je peux vous dire qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont signé leur CDI, j'ai un ami à mon fils qui est DRH chez une très grosse boîte internationale. Une fois qu'ils ont signé leur CDI, c'est en accident du travail. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pratiquement pas de contrôle.
Et c'est même pas arrêt maladie, là.
Bah, faut dire que pour qu'il y ait des contrôles, Valérie, faudrait-il encore que la Sécu ait
Le problème,
du personnel?
C'est que Sécu, maintenant, madame, ne fait plus les contrôles. Vous devez prendre une société privée.
Voilà.
Payer 150€ pour faire votre contrôle.
Voilà.
Et c'est un contrôle très encadré parce que la plupart du temps, il faut prévenir la personne qu'on va contrôler.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Mais d'ailleurs,
il y a des boîtes qui utilisent des détectives privés.
C'est ça. On avait fait le sujet ici. Et je me souviens du témoignage, justement, de cet enquêteur qui racontait le nombre de personnes qu'il avait débusquées à la demande de l'employeur en train de travailler sur d'autres chantiers ou d'avoir un autre métier ou un autre qui s'était fait toper sur les réseaux sociaux. Soi-disant, il était en arrêt maladie, puis il était dans un autre département.
D'ailleurs, il était en repos.
Le métier de détective privé fait plus du tout d'adultère. Allez-y, Valérie, pardon.
Monsieur, moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui se sont fait attraper parce qu'ils se vantaient, excusez-moi l'expression, je veux pas être vulgaire, qui se vantaient sur Facebook, je suis partie dans tel pays J'ai honte de dire le mot et je la France.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, bah oui.
Voilà. Ouais, c'est inadmissible. Après la Sécu, ouais, elle se plaint, la Sécu.
Non mais, il y a Valérie... aussi des gens qui ont signé les arrêts maladie de ces gens-là, quoi.
Les médecins.
Ils ne sont jamais inquiétés, ceux-là.
Et Valérie, le pire, c'est que ces abus-là, et à la limite, sont de plus en plus spectaculaires. Imaginez le nombre de gens qu'ils punissent. Le nombre de gens qui en font les frais, le nombre de gens qui sont réellement malades et qui sont un peu, qui osent pas faire un arrêt, qui veulent pas perdre une journée ou deux de carence parce qu'ils ont des petits revenus.
Notamment les indépendants.
Et tous ces gens-là.
Qui ne profitent pas de ce système.
Donc le manque de courage, d'organisation de ceux qui nous gouvernent, elle pénalise plein de gens.
Madame, je vais pousser encore plus loin. La plupart des accidents du travail, madame, et c'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit, hein. Ce sont beaucoup de gens qui arrivent sur le territoire et une fois qu'ils ont l'autorisation de travailler, une fois le CDI payé, accident de travail.
Mais parce que le système le permet, voilà. Madame.
Mais oui, c'est, tout à fait, mais il n'y a pas de système. Contrôle, madame.
Enfin, après, il peut y avoir aussi de la responsabilité individuelle.
On a Natacha, on va aller dans les Vosges.
Les gens, ils arrivent
Valérie,
dans un pays
je vous remercie
où
d'avoir été avec
guerre,
nous.
La misère, tu crois que... Ouais. Non, mais il faut arrêter,
attends,
Olivier,
on a Natacha qui veut en parler avec les grandes gueules. Bonjour, Natacha.
Individuelle.
Bonjour.
Bonjour, Natacha. Vous êtes à Saint-Dié-des-Vosges.
C'est ça.
Être soignant, qu'est-ce que vous en pensez de cette envolée des arrêts maladie chez les jeunes et les cadres? Alors dites-moi.
Bah écoutez, donc moi je suis être soignant dans un service d'EHPAD, hein, donc bon c'est très dur, hein, faut ouais, dire j'imagine. La vérité, voilà. Et en fait, ben on a des arrêts tous les jours, et tous les jeunes qui arrivent chez nous, donc qui commencent en contrat, donc c'est incroyable, c'est tous les jours et c'est en plus elles le disent franchement, elles disent bah moi demain je prends un arrêt parce que je suis fatiguée, parce que c'est trop dur, elles ont pas leurs vacances, elles se mettent en arrêt, elles travaillent les jours fériés, elles se mettent en arrêt, c'est constamment.
Mais Natacha, vous êtes tous en train de faire un constat incroyable, quand même compliqué et dur, parce que c'est de l'argent. C'est un fonctionnement. Et en fait, le vrai sujet,
c'est les collègues qui assument le boulot aussi.
Oui, en plus, ça repose sur les autres. Mais le vrai sujet, c'est, vous vous rendez compte, les gens disent, alors, je suis fatigué, demain, je me mets en arrêt. J'ai pas mes congés, je me mets en arrêt. J'arrive d'un pays, je trouve un CDI, je me fous un accident parce que tu comprends, en France, le système permet. Mais en fait, le vrai cœur du sujet, c'est comment ce système permet à des gens, en toute tranquillité, d'opérer des retraits de leur travail avec une légalité déconcertante.
Après, avec un arrêt, comme nous dit notre cadre, je ne peux rien faire, il y a des arrêts. C'est des arrêts, donc on ne peut rien faire.
Ah oui.
Et en plus, ce qui se passe beaucoup dans notre métier, c'est que maintenant, beaucoup de jeunes font de l'intérim. Parce que l'intérim, il y a aucune contrainte. Elles prennent leurs vacances quand elles veulent. Elles viennent travailler quand elles veulent. Ouais. Donc, on a de moins en moins de
jeunes
qui veulent des contrats. Voilà, elles veulent une qualité de vie.
Ouais.
Et il y a que les anciennes, donc comme moi, hein, ça fait 32 ans que je suis en EHPAD. Hein, donc, j'ai fait que de l'EHPAD. Et il y a que les anciennes qui tiennent la
route. Si on veut être cynique, franchement, bah, ils ont raison, les gens. Pourquoi se priver? Non mais regardez.
Oui, mais alors, attends. Moi,
c'est
je veux
grave
bien.
Quand même.
Moi je veux bien, d'accord. Ce nouveau monde où effectivement.
J'en veux pas. Ce que je dis, c'est le constat.
Oui, mais toi, pardon, tu es le monde ancien. Nous, on commence à être le monde ancien. Donc le nouveau monde travail, ça sera donc on travaille comme on veut, quand on veut. On n'a pas besoin d'être. On veut pas être payé tellement.
Il y a rien qui va marcher.
Oui, mais alors le problème, c'est que notre système qui repose quand même sur le travail,
c'est là où ça marche plus.
C'est la croissance qui fait en tout ça. Donc là, ça va coincer.
Ben oui.
C'est-à-dire que s'il y a.
Ça coince déjà.
Voilà, ça coince déjà. Donc en fait, là, c'est un système qui se met un peu la queue. C'est qu'on ne pourra pas en profiter éternellement.
Et en fait, je vous coupe, hein, je me permets.
Non, allez-y, Natacha.
En fait, c'est un cercle vicieux, c'est ce que je disais. C'est que, ben, vu qu'il manque du monde, on remplace sans arrêt.
Ouais.
Donc, on tourne en réduit sans arrêt. Je dis, par exemple, nous, le matin, on est censé être trois, donc trois aides-soignantes. Et on a une personne qui vient à mi-temps nous aider. Hein. Donc, on a 44 résidents le matin. Donc, bien souvent, on tourne à deux plus le mi-temps. S'il manque une ASH le matin, une aide-soignante est obligée de passer dans l'équipe ASH pour combler. Donc, on se retrouve à deux le matin. Donc, forcément, vous faites 3-4 matins à deux. Et le cinquième matin, vous êtes en vrac. Mais et vu qu'on a des plannings très compliqués...
Bien sûr.
Mais c'est une démarche égoïste. Ce qui compte avant tout, c'est mon bien-être personnel. C'est assez égoïste.
Oui, mais dans une collectivité, c'est compliqué. Au risque de me répéter, Si vous payez aux gens leur logement, leur école, la cantine de leurs enfants, leur santé, si vous leur faites un chèque carburant quand le prix de l'essence augmente, si vous leur faites un chèque pour les vacances, si vous leur faites un chèque pour la rentrée scolaire, s'il n'y a plus rien à payer, ben, il n'y a plus besoin de travailler. Donc, effectivement, et si en plus vous avez le système de l'assurance chômage qui permet de rien branler pendant des mois entre
les jeunes. Je voulais savoir. Vous savez, avant, il y avait une expression qui disait, bah, lui, on peut compter sur lui, il est dur au travail, tu sais, dur à la tâche. Est-ce qu'aujourd'hui vous constatez que il y a un peu plus de fragilité, je mets des guillemets, parce que vous dites ça fait 30 ans que je travaille en EHPAD, est-ce que les jeunes sont moins durs à la tâche que vous, quoi?
Ah oui, complètement. Et après, je pense qu'il y a aussi une éducation, hein, parce que moi j'ai deux filles, donc une de 16 ans, une de 19 ans. Moi, ma fille, donc la grande qui a 19 ans, depuis qu'elle a l'âge de 16 ans, elle travaille les étés. Voilà, elle travaillait les étés, elle travaillait les week-ends. Elle savait que même si elle sortait, elle avait des consignes, c'était tu sors mais tu vas au travail. Là, j'ai ma deuxième fille qui a 16 ans cette année. Elle cherche déjà du travail pour cet été et elle sait qu'il faut aller travailler. Je veux dire, maintenant, c'est...
Donc, c'est le goût de l'effort aussi,
oui,
peut-être.
C'est peut-être ça.
Une partie de la jeunesse l'a perdu, ça.
Non, mais on valorise le travail dans toute la société aussi. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une émission sur la semaine de 4 jours. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas l'apologie de la glanderie. Donc, à un moment donné, la valeur travail, qui était une valeur qui valait une médaille dans le temps. Quelqu'un qui était un bon travailleur, ça voulait dire quelque chose.
Il avait la médaille du travail.
Et aujourd'hui, ça s'est inversé, ça. C'est plus, moins t'en fais, mieux t'es dans la société.
Attends, on a Louis qui veut en parler avec nous. Je remercie Natacha de son témoignage. Louis qui est dans l'Oise, qui est auto-entrepreneur. Louis, bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Comment vous réagissez, vous, Louis?
Écoutez, je suis un peu content de ce que vient de dire Natacha à la fin. J'ai un peu l'impression, depuis 10 minutes, là, d'entendre un peu un discours de boomer, de bobo
vieux
boomer.
Con.
Bah un petit peu, parce que, écoutez, j'ai 27 ans, je suis auto-entrepreneur, je travaille 40 à 45 heures par semaine. Je gagne assez bien ma vie, entre 2500 à 3000 euros net par mois. Mais j'ai envie de défendre ma génération, puisque moi, tous mes amis de mon âge travaillent à plus de 40 heures semaine. Certains sont en expertise comptable, certains sont en grande distribution, certains sont chefs de rayon, certains sont à 50 heures semaine. Comment voulez-vous aujourd'hui, en sortant d'une licence ou d'un master, avec des offres d'emploi qui arrivent, on nous appelle, c'est venez à 1500 euros net par mois, venez à 1600 euros net par mois.
Comment vous avez raison.
Vous motivez aujourd'hui?
Ben oui.
Vous avez raison, mais pourquoi c'est si bas? Parce qu'il faut financer un système de financement d'arrêt maladie. Il faut financer tous ceux qui ne travaillent pas. On ne travaille pas assez en France. Pas moi qui le dis. À peu près tous les économistes de bon sens disent que c'est pas. Alors quand je dis ça, c'est pas vous parce que vous travaillez, mais c'est tous les gens qui ne travaillent pas, qu'il faut remettre au boulot. Les jeunes, les moins jeunes.
Allez-y, oui.
S'il y a plus de gens qui travaillent, il y aura plus de côté. On a moins besoin d'imposer et de matraquer de ceux qui travaillent.
Allez-y, Louis.
Je comprends, Olivier, mais nous, on subit 40 ans de politique des anciennes générations.
Oui,
on n'est pas responsable de la décadence.
Je suis d'accord avec vous.
Et donc c'est.
Je suis d'accord
donc,
avec
Louis,
vous.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le salarié, il y a l'entreprise et il y a le système. Et comme le système, il vit avec des gens qui ont aucun courage, qui ont été pas du tout visionnaires et qui ont rien fait, on marche avec un vieux système pour les, comme vous dites, les boomers, appliqué à une génération dont les trois quarts bossent comme des dingues, avec des loyers à 800, 1000, 1200 euros dans les grandes villes, des charges encore pires que les nôtres, et du coup, il y a une minorité.
On connaît
énormément de jeunes qui travaillent 40, 45 heures, il y en a plein.
C'est pas la majorité.
45 heures, c'est pas un bagne.
Allez-y.
Non plus, hein.
Oui, mais c'est bien, ils bossent.
Ça laisse du temps dans la journée, 45 heures.
Laissez finir, Louis, s'il vous plaît. Allez-y.
Olivier, je vais dans votre sens. Il est vrai que c'est moins pénible qu'à l'époque. Je vous l'accorde. C'est pas une question forcément de pénibilité. C'est une question de reste à charge, de reste à vivre.
Voilà. Merci.
Voilà.
Merci, Louis.
Mais c'est vous qui aurez conclu la discussion. Si plus de gens travaillent.
C'est vous qui aurez conclu la discussion. Est-ce que
si le reste à vivre,
on a
est-ce
y a trop d'abus là sur les arrêts maladie là parce qu'ils sont en très nette hausse, en particulier chez les jeunes, en particulier chez les cadres. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Vous dites oui à plus de 70%. Alors justement, face à cette société de confort et cet état aux bases, il y a une candidature qui est en train de monter, c'est celle du maire de Cannes. C'est le libéral. C'est
lui, promet de s'attaquer à ça.
Voilà, c'est le Javier Milei, un peu, c'est l'homme à la tronçonneuse, vous voyez, qui veut couper dans les dépenses publiques. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Il quitte son parti, le parti Les Républicains. Est-ce qu'il peut être la surprise 2027, David Lisnard, oui ou non? 11h25, vous venez en discuter avec les grandes gueules au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 11h20, on continue de discuter de ce qui fait notre pays. On va revenir un peu à la politique là maintenant, en regardant cette fameuse ligne de départ de la présidentielle 2027. Là, il y a du monde surtout à droite. On va en parler avec vous au 32-16, avec Zora Bitan, Charles Consigny et Didier Giraud.
Je quitte LR parce que LR n'a pas quitté tout simplement ses ambiguïtés et la Macronie. C'est aussi simple que cela.
Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi
il s'en va, il quitte les LR. David Lisnard, sitôt parti des LR, il y a l'UDR, Éric Ciotti, invité ce matin de RMC et de BFM TV, qui lui lance un appel.
Viens chez moi, je lui dis.
J'habite chez une copine.
David Lisnard, d'abord c'est un ami. J'ai été un peu à l'origine du début de la carrière de David Lisnard. Il a été mon vice-président lorsque je présidais le département des Alpes-Maritimes. On a des liens.
Considérez qu'il y a une...
des liens d'amitié.
Et confiance, crois dans moi.
Oh là là, vous êtes dur là.
Alors, David Lisnard qui s'engage pour l'élection présidentielle, est-ce qu'il a une chance? C'est le libéral. Est-ce qu'il peut être la surprise 2027? Venez en discuter avec nous.
Il a déjà répondu à Éric Ciotti. Il a dit qu'il ne rejoindrait pas le Rassemblement National, David Lisnard. Il n'y aura pas d'alliance des sudistes. Néanmoins, c'est intéressant sa démarche, celle du maire de Cannes. Il dit, les Républicains se sont trop compromis avec les macronistes. Je n'y crois plus, je m'en vais. Et puis, on a bien compris qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau l'appareil et veut faire en sorte d'être le candidat officiel des Républicains, donc peu de place pour David Lisnard. Mais alors là, ce qui est bizarre, c'est que David Lisnard, qui fait un acte de rébellion, d'indépendance, dans la foulée, dit « mais moi j'ai une primaire ». Donc il veut se remettre dans un système.
C'est ça.
Alors c'est curieux. Alors je comprends bien qu'il a un défaut de notoriété, que la primaire, avec les débats télévisés sur les chaînes info, ça permet de se faire connaître et il peut y avoir des bonnes surprises. Mais c'est vrai que sa démarche de rébellion s'arrête assez vite quand même.
Enfin...
Charles.
Non, moi j'aime bien le jeune Lisnard, évidemment, puisque je pense que il a une partie de la solution dans son programme. Je pense que on a besoin aujourd'hui en France d'un traitement de cheval libéral dans ce pays, et je pense qu'il faut en finir avec cette connerie de bloc central, qu'il faut retrouver des antagonismes, qu'il faut de nouveau que chacun présente un projet et puis aille devant les Français, et les Français choisiront. Il n'y a pas besoin d'être
donc
là.
Donc il ne doit pas passer par une primaire.
Alors voilà, directement. Non, mais déjà ça, je trouve qu'il n'y a pas besoin de... Je vois pas pourquoi absolument il faudrait que les anciens socialistes, les anciens LR, les anciens centristes, tout le monde se mette absolument ensemble derrière je ne sais quel gourou qui serait capable de faire la synthèse entre eux. Tout ça, je trouve que c'est une connerie sans nom. Et il faut arrêter avec, sinon ce sera RN contre LFI, etc. La politique, c'est pas des blocs immuables, c'est aussi des dynamiques, des campagnes, etc. Donc tout ça, ça peut changer. Mélenchon, il peut quand même s'effondrer, Bardella aussi, quelqu'un peut percer. Tout est possible en politique, on le sait quand même. Bon, donc je pense que lui, au moins, il a une espèce de constance dans sa ligne. Après, effectivement, je comprends pas pourquoi il s'emmerde avec une primaire. Il a pas de raison de vouloir absolument une primaire. D'autant que j'observe que LR et le monde politique dans son ensemble, même s'ils ont du mal à l'admettre, évidemment, parce que c'est difficile pour eux, c'est devenu une espèce de trou noir qui aspire et qui tue tout ce qui s'en approche. C'est-à-dire que les Français rejette aujourd'hui la classe politique en considérant qu'elle est impuissante à résoudre leurs problèmes, qu'elle ne fait pas les réformes nécessaires. Et donc, plus vous êtes perçu comme faisant partie de ce marigot, plus les Français vous rejettent, en fait. Et donc, je pense qu'il ferait mieux de rester très extérieur à tout ça et de pas... Il est un peu comme un ado qui voudrait fuguer mais qui revient quand même chez ses parents, si vous voulez. Et à un moment donné, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Si tu considères, je comprends même pas son motif. D'ailleurs, il dit oui, c'est parce que LR est trop compromis dans le macronisme. Il pourrait très bien dire aussi, ils sont dans un système vermoulu. Ça fait 40 ans qu'ils fonctionnent comme ça. Ils sont en train de tout verrouiller comme d'habitude avec leur statut à la con.
Et je veux faire sauter tout ça.
Ils se foutent de ma gueule, je m'en vais. Ouais. Donc je trouve qu'il est un peu timoré sur ses. C'est curieux. Il est tactiquement timoré alors qu'il ne l'est pas sur le fond. Je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire.
David Lisnard en tant que tel, moi j'ai lu pas mal de choses assez intéressantes dans ce qu'il peut dire. Mais tout cet univers-là, tout ce monde-là, tout ce chaudron a quelque chose de semblable. C'est que en fait, ce sont pas des gens qui incarnent quelque chose qui pourrait les distinguer d'un.
Il y a quand même, attends, lui c'est libéral quand même.
Oui, d'accord, mais quelque chose qu'ils incarnent eux-mêmes et qui pourrait les distinguer d'une proximité sincère, authentique et honnête avec les Français. Qu'est-ce qui fait le succès, par exemple, de Mélenchon et du RN? C'est justement de parler au peuple, de parler du peuple. Ok, on peut trouver ça populiste, etc. Et en face, nous avons un système de castes et de gens. On a l'impression qu'ils se reproduisent entre eux avec des cahiers des charges un peu différents. Chacun essaye de se distinguer. Avec tout, j'allais dire, le respect que j'ai pour David Lisnard, qui d'ailleurs fait plutôt un bon boulot. Et d'ailleurs,
il a bien été réélu à Cannes. Voilà. C'est quasiment le maire le mieux réélu.
C'est que, par exemple, quand je le vois, moi, il me fait pas envie. Moi, il me fait pas envie. Je me dis, c'est un mec comme tous.
Il incarne encore une fois une ligne assez originale, en fait, parce qu'en France, on n'est pas très sur le plan économique, on n'est pas vraiment libéral. Lui, il est libéral.
Est-ce que vous croyez que dans une présidentielle, les gens vont aller se poser pendant des semaines et des semaines et ils vont regarder sur la culture? Je me tape 500 pages, il dit ça. Sur la santé, non. Les gens, ils ont besoin de quelqu'un en proximité avec eux qui ne leur ment pas et qui leur propose quelque chose de lisible, d'accessible, audible, de courageux, qui répond à leurs questions. Personne n'a ça aujourd'hui.
Oui, mais
personne.
Dans ce cas-là, tu fais des réponses démagogues.
Non, ça veut dire que pour l'instant, quelqu'un va émerger. On n'y est pas encore.
Oui, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est pas soit des réponses simplistes, soit aucune réponse.
Non.
Oui, peux avoir des réponses un peu plus complexes, on peut reprocher beaucoup de choses à David Lisnard, mais c'est quelqu'un quand même qui est assez outillé, qui a des idées bien précises et qui développe. Si c'est uniquement les réponses simpliste qui
peut dire. Non, mais c'est pas parce que c'est simpliste que c'est.
On a Gilles. Gilles nous appelle de la Marne. Bonjour Gilles.
C'est gratis.
S'il vous plaît.
Gilles est plutôt séduit par la candidature Lisnard et le programme, Gilles, c'est ça?
Eh bien, écoutez, je suis pas séduit, mais donc j'y crois, parce que si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Je pense que c'est un type qui a pris ses responsabilités. Il a créé son propre parti il y a quelques années. Nouvelle énergie. Il sort de LR. C'est une évidence. Ça devait être une évidence biblique. Ils ont avalé les couleurs. On laisse faire. Et donc je parle pas de la Macronie. C'est le seul qui ne soit pas compromis avec la Macronie. On est d'accord. C'est le seul qui est travaillé. Il a un corpus d'idées. Il le dit. Il l'expose.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
Et à partir de là, et je voudrais ce que disait Zora. J'entends ce qu'elle dit, mais je dirais qu'il reste 13 mois.
Oui, voilà.
Aujourd'hui, il est en train d'essayer de faire sa place. Donc, si aujourd'hui il a la possibilité de faire adhérer le maximum de gens à ce corpus d'idées précisément, parce que je pense qu'il a
bossé. Qu'est-ce qui lui manque alors?
Comment?
Qu'est-ce qui lui manque?
Un parti.
Le parti,
Nouvelle Énergie. Je vous signale que les garçons comme Borloo le suivent attentivement et sont persuadé que c'est lui qui peut être l'homme idoine.
Mais donc, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour passer une étape supplémentaire?
Il le dit lui-même, il a ce manque de notoriété, parce qu'effectivement aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes, on voit Bertrand, on voit Copé, on voit des chevaux de retour, mais il y en a marre. D'ailleurs, tous les gens en ont marre, je pense que ça c'est une grande constante. Alors à partir de là, effectivement, déficit de notoriété, mais ce que disait Zora, c'est sûr qu'il n'est pas populiste, il s'adresse peut-être pas assez au peuple, ça on est d'accord, c'est pas non plus un universitaire. C'est pas un mec qui a fait Sciences Po, mais ceci étant, le jour où il va commencer à dérouler son programme, je pense qu'il faut le laisser, et je pense que c'est pour ça qu'il demande une primaire, hein, et si cette primaire ouverte...
Pour se faire connaître la primaire, oui.
Ouais, non seulement, mais exposer ses idées. Parce que je veux dire, ça fait 40 ans qu'il n'y a plus d'idées en France. Aujourd'hui, c'est le seul, je dirais que c'est le seul, mais c'est pour ça que j'y crois, qui expose des choses. À partir
oui,
de là,
vous dites qu'il a un déficit de notoriété. Moi, je ne crois pas. Il est de plus en plus connu par les Français. Moi, je pense qu'il faut qu'il continue sa route sans justement demander à être adoubé par un univers justement qui incarne le monde ancien. Parce que le problème, c'est que Macron a dit « je vous propose le nouveau monde ». Mais alors, non seulement on a vu ni les flèches ni les Indiens du Nouveau Monde, mais on a surtout vu les flèches. Donc c'est quand même hallucinant. Et c'est là où on n'est pas encore passé à ce nouveau monde pour lequel certains, même en deuxième tour de vote, se sont dit bon, après tout, s'il y a un nouveau monde, allons-y. Et vous avez vu où on en est.
Si je peux me permettre, vous avez parlé de Macron, j'aurais préféré éviter d'en parler parce que là, ça a été une arnaque totale, on est tous d'accord. Un an avant la présidentielle, qui connaissait?
Oui, c'est vrai, 6 mois même.
Regardez aujourd'hui les sondages qu'on nous vend. On nous vend Philippe qui avait 14% de notoriété avant l'élection. Il a été élu difficilement au Havre, voire connaître. Et sa cote de popularité, elle est passée au double. On est en train, encore une fois, il y a tout un espace médiatique qui maîtrise peut-être pas assez totalement. Eh ben, je dirais que de toute façon, c'est son
Mais vous savez, si j'ai un conseil à lui donner, franchement, il le fait déjà, je pense, qu'aujourd'hui, la véritable rencontre avec le peuple, elle a pas besoin des médias. Il y a énormément d'outils aujourd'hui. Je pense qu'il faut penser campagne différemment.
Oui, mais alors ça, tu vois, c'est ce qu'a cru Éric Zemmour.
Oui, d'accord.
Éric Zemmour, il a cru avec les réseaux sociaux et les salles combles. Oui, mais il était en train de rencontrer la France. Regarde à quel score il a terminé.
Regardez la contradiction des Français. On ne veut pas d'un candidat qui est imposé par les médias. Didier. Et à côté de ça, on est obligé de passer par les médias pour avoir une notoriété.
Écoute-moi, Lisnard, je lui reconnais le fait que à droite, il y en a pas beaucoup d'autres qui réfléchissent autant que lui et qui proposent des idées. Par contre, moi, j'ai quand même un message en tant qu'électeur au maire du Havre, au maire de Cannes et consorts. Si pendant 14 mois, ils s'évertuent à nous faire chacun leur petite phrase tous les jours pour qu'on parle d'eux dans les médias, ça va les gonfler, les gens. Je te promets que ça va les gonfler parce que à un moment donné, démarrer 14 mois avant le jeu de une petite phrase tous les matins, et ben, même s'il a des bonnes idées, on en aura plein le dos de Lisnard avant qu'on réfléchisse pour qui on va voter. Vous êtes dans un microcosme de passionnés de politique. Peux te dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui pensent que le maire de Cannes et le maire de Havre, il ferait mieux de s'occuper du Havre et de Cannes.
C'est ce qu'il faut. Ils ont attaqué
la campagne présidentielle le lendemain matin.
La différence entre Édouard Philippe, je suis assez d'accord, il n'a pas besoin de se montrer tous les 4 matins.
D'ailleurs, il arrête ce plan.
Ce plan qui dit
tu
pas
rigoles,
grand chose.
Il y a une petite phrase tous les jours.
Non, il dit pas grand chose.
Il regarde régulièrement,
je suis là, mais il dit pas grand chose. Lisnard, il a besoin, il a un déficit de notoriété. Au contraire, moi, je suis pas d'accord avec toi. Il doit ruer dans les brancards, Lisnard.
Il doit
en faire des tonnes.
Non, je pense
là
que
Didier a raison. Je suis d'accord avec vous deux. Enfin, c'est-à-dire. Je pense que Lisnard, effectivement, il a plus intérêt à faire ce que tu dis, Olivier. En revanche, là où Didier a raison, c'est que les Français sont fatigués par la politique.
Mais oui, regardez, ils en ont ras la couane.
Regardez d'autres crocodiles.
Il parle de lui.
Quel crocodile?
Regardez le cornu qui ne dit plus rien. Il travaille
sur le carburant.
Il calcule son surplus d'oxygène.
Darmanin qui dit presque plus rien.
Tous ces mecs
en réalité.
On va rattaquer le jeu des petites phrases.
Darmanin dit qu'on est dans une pré-révolution civilisationnelle.
Oui, c'est vrai. Oui, mais le cornu, il dit rien.
Et il travaille.
Alors que le cornu se prépare à être candidat, moi je vous le dis.
Mais bien sûr, il cherche sa demi-doudoune de printemps.
Il attend simplement le bon moment. Et voilà.
Et quand il y aura tout le monde dans l'arène, ça va être la cacophonie.
On va regarder un peu la tendance pour David Lisnard. Merci à Louis d'avoir été avec nous. David Lisnard qui s'engage pour la présidentielle. Est-ce qu'il a une chance? Est-ce qu'il peut être la surprise? C'est un non pour moi. Remarquez, 34%, ça te fait largement passer le premier tour. Hein,
36.
Sinon, c'est non, 63%. Dans un instant, on reçoit un humoriste que vous connaissez bien. Il est fort sur les réseaux sociaux. Il a fait des tournées combes dans toute la France. C'est Chicandier. Jason Chicandier, chez Michel Lafon, il revient avec le livre Accro. Il avait fait son succès sur la bonne chère, sur l'alcool, sur le bon vivre. Sauf que ça l'a fait descendre aux enfers. Il a dû être quasiment interné. Il a dû partir en réhab, comme on dit, en clinique pour en sortir, Chicandier. Et il va nous raconter ça. Accro, à tout de suite.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.